Cours de philosophie éthique par le Père Marie-Dominique Philippe, le 25 janvier 2001 à Saint-Jodard.
Vous nous dites toujours que la philosophie repose sur l'expérience. Si l'éthique chrétienne est bien philosophique, sur quelle expérience repose-t-elle ? Est-ce qu'une expérience que tout homme peut faire ? Oui, s'il est objectif et qu'il n'a pas de préjugés. Jésus, le Verbe incarné, s'est fait homme. Et tout homme a pu constater qu'il était un homme parfait. Un homme qui se posait la question, comment est-il un homme parfait ? Et c'est parce qu'il était un homme parfait qu'il y avait cette jalousie terrible auprès de lui, autour de lui. La grâce ne diminue en rien notre nature humaine. Et ça, tout homme peut le constater. Je peux constater qu'un chrétien doit vivre de la béatitude des pauvres. Il est témoin de Christ. Témoin de son amour, témoin de sa croix. Tout le monde peut le constater. Alors, c'est le point d'interrogation. Comment se fait-il qu'il soit tel homme ? Alors la réponse, évidemment, sera la grâce. Et il ne s'en cache pas, Dieu. Il ne s'en cache pas que s'il est chrétien, c'est grâce à Dieu, c'est grâce à Jésus, c'est pas lui qui est un homme héroïque, non. Qui est un homme plus parfait que les autres, non. Il l'est à cause du Christ. Et il rendra témoignage par le fait même à Jésus. Et ce témoignage, tout le monde peut l'avoir constaté. L'éthique chrétienne, que nous voyons au point de vue philosophique, n'est pas une apologétique. Elle montre comment la grâce du Christ transforme l'homme. C'est beaucoup plus qu'une apologétique. Parce qu'elle doit avoir cette objectivité. Comment se fait-il qu'il y a des hommes aujourd'hui qui ne sont pas croyants et qui lisent quand même l'Évangile ? Comment lisent-ils ? J'en connais comme ça, qui se disent philosophes et qui disent qu'il n'y a pas de livre plus grand que le livre de la Bible, même humainement. Et c'est vrai, si je suis objectif et que je n'ai pas une espèce d'opposition, c'est très grand comme livre. Et humainement, c'est très grand. Le livre de la sagesse et les Lévitiques, comme réflexion sur l'homme, c'est étonnant. Et alors, comme réflexion sur l'homme, quand je regarde Jésus, c'est un surhomme, hein ? Mais le surhomme de Nietzsche n'est rien à côté de Jésus. Et Jésus est l'homme nouveau. Il est celui que nous suivons. Et donc, l'éthique chrétienne même pour le chrétien, est bon, mais elle est philosophique. C'est ma philosophie qui empiète sur le terrain de l'Église, mais qui considère que par la grâce de Dieu, le levain a fait lever la pâte. Et cette pâte chrétienne est magnifique. J'ai pas peur de la regarder en face de tous les autres hommes. Elle est magnifique. Je regarde la manière dont la grâce transforme l'homme et en tire toutes ses conséquences. Et je comprends que cette éthique chrétienne est ouverte vers autre chose. Mon royaume n'est pas de ce monde. Mais il est de ce monde en tant qu'il transforme l'homme. Et l'homme est transformé par la grâce chrétienne. Donc, ça repose sur l'expérience. Chacun d'entre nous, il faut faire cette expérience-là. Nous constatons qu'il y a des hommes qui ne croient pas et qui sont merveilleux. Et nous disons, l'amour du Christ est sur eux. Sans le savoir, ils sont quand même du Christ. Et au-dedans de nous-mêmes, nous disons, c'est dommage qu'ils n'ont pas explicité que c'est par Jésus et à cause de Jésus qu'ils sont comme ça. Serait-il juste de dire que c'est l'union hypostatique donnée par la foi qui oblige le philosophe de l'éthique chrétienne, qui oblige le philosophe de l'éthique chrétienne à considérer en temps les causalités finales exemplaires? C'est l'union hypostatique. Non, c'est le mystère du Christ, si vous voulez. J'aime mieux dire ça. Parce que déjà, l'union hypostatique, seul le croyant en parle. Tandis que je parle du Christ historique. Il a vécu comme un homme juste et craignant le Père, d'une crainte filiale et aimante. Je veux dire Jésus en tant que Dieu, très bien. Je veux dire Jésus en tant que Dieu. Non, en tant que Dieu, c'est la foi qui me le dit. Le chrétien, le croyant au point philosophique, regarde Jésus comme l'homme parfait. Jésus en tant que chrétien, en tant que Verbe dans sa personne, qui est ma fin. Oui, ça c'est la foi qui me dit ça. Et Jésus en tant qu'homme qui est mon moyen par excellence et mon modèle vers la fin. Pour le chrétien, les deux ne font qu'un. Mais pour le non-chrétien, c'est-à-dire pour le philosophe, ce qu'il regarde, c'est Jésus en tant qu'homme et la perfection de Jésus en tant qu'homme, l'homme parfait. Et la finalité, la béatitude, elle échappe aux philosophes. Mon royaume n'est pas de ce monde. Prenant le cas de la première béatitude, est-ce qu'on peut dire que la foi nous donne de fait, que la foi nous donne le fait que Jésus est bienheureux en étant pauvre sur la croix, et que l'éthique chrétienne puisse, que l'éthique chrétienne précise, l'homme est attiré par et vers Jésus en croix, cause finale, pour être pauvre comme lui dans la passion, cause exemplaire. Attention, la foi seule me montre que le Christ est fin. Je peux dire que le Christ s'est présenté comme sauveur et comme fin. C'est lui qui l'a dit. Je ne peux pas l'affirmer. Vous voyez ? Parce que considérer que la parole du Christ est une parole divine, c'est la foi. Le philosophe considère que la parole du Christ est parfaite. Qu'elle est parfaitement humaine. Mais qu'elle est souvent une exigence héroïque de la part de l'homme. Et pas la même chose, l'héroïcité du chrétien et le point de vue de regarder le chrétien au point de vue de la foi comme celui qui est témoin du Christ. Le chrétien comme chrétien ne dit pas qu'il mène une vie héroïque. Il dit qu'il est témoin du Christ, comme chrétien. Mais le non-chrétien qui regarde le chrétien dira que cet homme, Jésus, a mené une vie héroïque. Et que le chrétien qui veut vivre à l'ombre du Christ doit vivre une vie héroïque. Mais qui reste toujours humaine. L'héroïcité chrétienne, vue par le philosophe, n'est pas contraire à l'homme, mais elle développe en l'homme les aspects inédits. Vous voyez, regardez par exemple la manière dont un incroyant, mais vraiment philosophe, donc loyal, regardez Marthe, la vie qu'elle menait. Et si je ne comprends pas, mais elle montre une vie héroïque. Je comprends pas comment vraiment elle ne pouvait plus manger si longtemps, depuis 1930 jusqu'à 1982. Est-ce que ça peut arriver d'une façon purement humaine? Et donc, il doit y avoir quelque chose. Où il y a un mensonge humain, on fait croire que, c'est ce que certains ont prétendu, mais si c'est vrai, je ne l'explique pas. Mais c'est le miracle, je ne l'explique pas. Mais on ne peut pas donner de cause humaine. On ne peut pas expliquer ça humainement. Vous voyez, constamment, le philosophe sera obligé de dire « Je ne comprends pas. » Il y a une héroïcité qui dépasse ce qui est possible pour l'homme. Quand un pur philosophe regarde la vie d'un saint François, William Grimm, qui a écrit le livre sur sur saint François, ben, il disait ça. En tant qu'homme, j'explique pas. Il y a quelque chose derrière. Ou alors, si c'est un fou, la folie n'a pas à côté d'actes parfaitement humains. C'est ça qui est très curieux chez les saints. Leur acte touche à la folie, vu de l'extérieur. Et ils sont en même temps parfaitement humains. Donc, sûrement que l'éthique chrétienne est quelque chose de très important pour nous. Vous voyez ? Parce que ça montre comment la philosophie dépasse ce qu'on pourrait faire pour faire une espèce d'apologétique. C'est très intéressant de montrer que la philosophie n'est pas apologétique. Elle est plus que l'apologétique. L'apologétique, quand elle est très grande, elle serait éthique chrétienne. C'est la meilleure apologétique qu'on peut donner, qui n'est plus de l'apologétique, qui est de la philosophie. Qu'on constate un phénomène. C'est que des historiens intelligents constatent par rapport à l'Église une société purement humaine ne pourrait pas réaliser ce qu'on voit dans l'Église. Il y a autre chose. Donc l'Église, dans la mesure où elle vit vraiment son message, rend témoignage au Christ. C'est très bien d'essayer de bien comprendre ce statut particulier d'une éthique chrétienne, qui n'est pas de la théologie, qui reste philosophique. Mais qui reste philosophique à constater un fait qui dépasse le philosophe. Et si la philosophie commence par l'admiration, ce que dit Aristote. Un phénomène d'admiration qui aide à être philosophe. Quand on n'a aucune possibilité d'admiration, on n'avance pas beaucoup au point de vue philosophique. L'admiration est nécessaire pour se poser des questions. Alors, l'éthique chrétienne implique l'admiration. On est devant quelque chose d'admirable qui nous dépasse et qu'on peut décrire. Alors, qu'on peut décrire, on ne l'analyse pas parfaitement puisque les principes nous échappent aux philosophes. Le principe qui explique tout dans la vie chrétienne, c'est Jésus, fin de ma vie, parce qu'il est Dieu. Et seul le philosophe peut le dire. Seul le croyant le dit. Donc le philosophe reste à la porte, avec un point d'interrogation. Et pose le point d'interrogation, mais c'est admirable, cette vie. Comment l'expliquer? Qu'est-ce qui peut l'expliquer? C'est la foi. La foi dans le Christ Dieu. Si je regarde le Christ comme homme parfait, ça reste la grande interrogation. Comment peut-il être un homme parfait, lui qui est, humainement parlant, fils de Joseph. Et que les croyantes disent qu'il est fils de Dieu. Vous voyez, ce hiatus. Hein. Fils de Joseph. On l'appelle comme ça. Mais en réalité, le croyant dit qu'il n'est pas fils de Joseph. Alors on dit, c'est curieux, cette vie qui a commencé par quelque chose qui échappe aux hommes. Fils de Dieu. Et cette religion, elle a commencé comme ça, par une espèce, je ne dis pas de mensonge, au plan social, à la mairie, Jésus est fils de Joseph. Alors qu'il est fils de Dieu. On ne l'a pas déclaré fils de Joseph. Cette religion qui commence par un mensonge social. Ce mensonge social faisait partie de la loi de l'arcane, du silence, du secret. Et c'est vrai que la foi est un secret par rapport aux non-croyants. Quelque chose qui cache profondément le mystère. On l'oublie trop, ça. Il y a la loi de l'arcane, du secret. Ce que Marthe disait, tout simplement, « Toute vérité n'est pas bonne à être divulguée et à être dite. » C'est ce qu'elle disait à un journaliste. Quand le journaliste lui disait, « Mais Marthe, je suis comme vous, je cherche la vérité. Toute vérité n'est pas bonne à être divulguée. » Ça, c'était Marthe qui répondait au journaliste. Et c'est vrai, le journaliste, l'histoire, n'explique pas la vie chrétienne. C'est là qu'on voit que la méthode historique n'explique pas la vie chrétienne. Il y a la foi. Et c'est en ce sens-là qu'on est devant quelque chose qui dépasse la méthode historique. Dès le point de départ, Jésus n'est pas fils de Joseph. Alors que tout, historiquement, fait qu'il est fils de Joseph. Et de Marie, de la descendance d'Abraham, de la descendance de David. Historiquement. Et la foi me montre que tout cela n'est pas vrai. Il y a une vérité cachée, fils de Dieu. Et c'est là où vous touchez la différence entre l'éthique chrétienne et la théologie morale. Mais l'éthique chrétienne nous aide à comprendre et à pouvoir édifier une véritable théologie morale. C'est peut-être ce qui manque très souvent aux théologiens moralistes. Ils n'ont pas été jusqu'au bout du regard philosophique pour l'éthique chrétienne. Je ne le dis pas, hein, je vous le communique, je ne le dis pas publiquement. Mais je crois que c'est vrai. C'est à chercher ça. Est-ce que cette crise, c'est très difficile de trouver des théologiens moralistes. J'ai vu ça à Fribourg, hein. C'est très difficile. Ça ne se voit plus. C'est peut-être parce qu'il manque une étude sérieuse de l'éthique chrétienne. Puisque l'intelligence doit être au service de la foi. Et qu'il y a un service là qu'elle ne fait pas. Alors, continuons. Mais toutes les difficultés que vous avez pour cette position de l'éthique chrétienne, notez-les. Parce que s'il ne faut pas qu'il y ait de difficultés, il faut voir ça. C'est quelque chose de très spécial. Et n'en faites pas une apologétique, surtout. Vous comprenez que c'est... Et c'est très utile si vous avez des amis incroyants de leur faire toucher du doigt cela. Toucher du doigt par l'expérience. Donc, cette éthique chrétienne, elle montre que le fondateur, c'est le Christ. L'éthique chrétienne existe en fonction de Jésus. Et que le mystère de Jésus est le mystère d'un homme qui est Dieu. Dieu se cachant dans l'homme. Dieu restant manifesté par l'homme et en même temps se cachant par l'homme. C'est une manifestation très spéciale. C'est le mystère de la manifestation, c'est un mystère. Le baptême de Jésus, la transfiguration, le calvaire, toutes les manifestations. Et Jésus enseignant sur la nouvelle morale qu'il nous donne, cette nouvelle morale qu'il nous donne commence par les béatitudes, face à la loi. Il y avait les docteurs de la loi qui enseignait une morale à partir du décalogue, à partir de la Torah, de la loi. Cette morale à partir de la loi est parfaitement humaine. Jésus, dès le point de départ, enseigne les béatitudes, comme étant l'esprit nouveau qui doit prendre possession de notre cœur pour dépasser la loi et entrer dans ce que représente l'esprit chrétien qui anime et qui doit animer de l'intérieur toute notre vie. Notre vie chrétienne n'est pas un retour à la loi. Jésus n'est pas celui qui reprend l'enseignement de Moïse pour lui montrer toute la perfection. Il est fondateur d'une nouvelle éthique. Et cette nouvelle éthique, il nous la donne à travers les béatitudes. Les béatitudes sont vraiment l'esprit de l'éthique chrétienne. cette éthique chrétienne se fonde, repose sur Jésus, qui lui-même nous dit l'esprit qu'il vient apporter. C'est lui qui apporte ça. Les béatitudes se fondent sur Jésus et nous conduisent à Jésus. C'est Jésus qui en a vécu pleinement et totalement. Ma grande vision sur Jésus, c'est les béatitudes. C'est même merveilleux de pouvoir avoir cette vision intérieure exprimée par les béatitudes. Bienheureux ceux qui ont une âme de pauvre, parce que le royaume des cieux est à eux. La première exigence de cet esprit de l'éthique chrétienne, c'est cette pauvreté intérieure, avoir une âme de pauvre. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre. Donc, c'est bien intérieur. Hein. L'éthique commence par une intériorité nouvelle. Et cette intériorité nouvelle, c'est l'esprit de pauvreté. Et l'esprit de pauvreté, c'est l'offrande à Dieu de tous nos droits. Nous avons des droits personnels, très chers à chacun d'entre nous. Le droit de propriété, le droit d'avoir, c'est tout notre avoir, hein, puisque la propriété porte sur l'avoir. Et cet esprit porte donc en premier lieu sur nos droits à posséder. En nous montrant que tous ces droits doivent être remis à Dieu progressivement. Pour vivre de la béatitude de l'âme de pauvre, d'une âme de pauvre. Abdiquer, renoncer à ses droits pour pouvoir être plus à même de recevoir la grâce. Pour pouvoir vivre intérieurement de cette grâce.